Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode consacré aux questions posées par le soin de la SLA. L'accompagnement des personnes atteintes par la sclérose latérale amyotrophique, mais aussi de leurs proches, ouvre beaucoup de questions qui s'étendent de l'impact du diagnostic à la prévision d'une dégradation majeure de l'état de santé. Cette maladie impose son rythme et elle modifie nécessairement la perception du temps, mais aussi de ce que le temps signifie. D'un côté, l'incertitude de ce qui va arriver, et de l'autre, la frustration de ne pas réussir à s'approprier ce temps. Évidemment, la place du corps change elle aussi. La conception ordinaire d'un corps dont on dispose, qui nous obéit, qui répond à ce qu'on attend de lui, est profondément mise en question et il faut faire l'apprentissage d'une nouvelle manière de fonctionner, de se sentir acteur de son quotidien, qu'il bouleverse les repères. Entre l'abandon ou le désengagement, et d'un autre côté, la volonté de vivre autant que cela est encore possible, on entend bien que chaque malade et chaque situation est très différente. Et donc, pour les soignants, une adaptation constante au vécu de chaque personne est nécessaire pour produire un soin sur mesure. Cette pratique de l'accompagnement questionne sur ce qui donne du sens à l'existence de chaque personne, sur ce que chacun va mobiliser dans cette mise à l'épreuve extrême pour se sentir encore dans sa vie, plutôt que spectateur de sa vie. Pour ce deuxième épisode, je poursuis la conversation avec Sophie Dufaux.
Bonjour, je suis donc infirmière au Centre SLA, je suis infirmière coordinatrice du Centre SLA de Toulouse.
Et Harmonie Lefebvre.
Bonjour et merci pour votre accueil à cette émission. Je suis donc psychologue clinicienne de la santé et donc j'interviens aussi dans la même équipe que Sophie au sein du centre SLA de Toulouse.
Dans la SLA, ni au moment du diagnostic ni par la suite, il n'y a pas d'évolution type de cette maladie. Comment faire pour gérer cet aspect-là qui est l'impossibilité à imaginer précisément quel va être son avenir, l'impossibilité à se représenter de l'évolution de la maladie dans le temps, est-ce qu'elle fait partie des difficultés de votre travail d'accompagnement ?
C'est une des choses qui peut poser problème parce qu'on a l'obligation d'informer sur ce que le patient a momenté, de ce qui se passe, des pertes qu'il a, de quelles sont les propositions d'alternatives à l'alimentation, s'il y a besoin de moyens aussi pour communiquer autrement, ou tout simplement d'être équipé peut-être d'un fauteuil roulant. Et c'est des choses qui pour eux, en fait, on a envie d'anticiper. Nous, pour ne pas se retrouver à un moment où ils seront vraiment en très grande difficulté. Sauf que trop anticiper, dans la majeure partie des cas, on ne peut pas. Enfin, voilà, du coup, on essaye un peu de trouver cet équilibre en amenant les choses petit à petit ou en donnant quelques informations de pré-information pour qu'ils puissent cheminer, pour que le moment où il en aura besoin, il soit capable d'accepter l'aide mécanique, l'aide humaine aussi, des fois. Ça prend du temps. Donc, effectivement, donner toutes les informations dès le départ, dire ça se passera comme ça, comme ça, comme ça, donc les étapes sont telles quelles, c'est pas possible. C'est pas possible, donc on marche sur des œufs, on avance avec eux, avec leur temps psychique, le temps de la maladie. Et en plus, on ne peut pas donner de réel... C'est ça, la difficulté donc pour eux aussi, mais c'est de les accompagner vraiment au moment et de se montrer disponible. Après, pour eux, le meilleur moyen, je ne sais pas, mais en tout cas, pour essayer de les aider à pas se projeter et que ça devienne trop anxiogène aussi, malgré ce qu'on doit leur apporter en termes d'informations, c'est aussi de vraiment regarder au présent ce qui leur vit, comment ça se passe, et c'est ce qu'on reprend souvent avec eux en post-annonce.
Il pourrait y avoir l'idée du projet de vie et l'idée du projet de la maladie.
Oui.
C'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir ce que la personne elle va avoir envie, souhait de mener, qui va être positif et qui va faire partie de ses ressources. qui peut être d'un tout petit projet de faire une sortie il y a très, dans un court temps, à moyen temps ou à un temps un peu plus important, et ce qui raccorde effectivement à l'avancée de la pathologie. Et là, effectivement, il y a des... Il y a des moments où, pour venir protéger la personne, et je pense à notre kiné, à notre ergothérapeute notamment, il va devoir y avoir des informations données sur du matériel par rapport à une prévention. Mmh. Et ces informations-là, même si on essaye de prendre en considération l'état psychique de la personne au moment T, peuvent être aussi accueillis d'une manière violente.
Ah d'accord, oui.
Parce que du coup, ça vient faire état d'une évolution possible, et pour quelqu'un d'anxieux, bah du coup, faire état d'une évolution possible, ça vient appuyer sur un stress qui est présent.
Oui, oui, oui. Vous parliez du temps de l'évolution psychique, c'est ça.
Il n'est pas le même.
Finalement, vous avez besoin, enfin, il faut d'une certaine manière sentir à quel moment la personne peut entendre ça.
Oui, comme s'il y avait le temps psychique et le temps physique, sauf que malheureusement, il y a des moments où les deux ne s'accordent pas. Mmh. Et que pour protéger la personne d'une chute grave, d'éléments qui peuvent vraiment la mettre en danger, bah, effectivement, il y a des informations qu'on va amener, voire à plusieurs. Encore une fois, je repense au relais qu'on a des associations, des hospitalisations à domicile, des professionnels du SIAD, des personnes autour de la prise en charge et de l'accompagnement global. Mais j'ai ça en tête, en tout cas.
Pour reprendre aussi ce que je disais par rapport à... aux choses à travailler de manière gouvernementale. C'est que là aussi, on est coincé, par exemple, pour anticiper des dépôts de dossiers d'aide humaine ou de financière, ça prend plusieurs mois. Donc, c'est des choses dont on est obligé de leur parler assez rapidement, en leur disant, il faut le faire, parce que là, vous n'en avez pas besoin, mais si à un moment, vous en avez besoin, et probablement que ça arrivera, il faut être prêt. Sauf que c'est des choses qui pourraient déjà être débloquées. On a des liens avec, par exemple, la MDPH ou des choses comme ça, où on leur dit, ben là, c'est urgent. Pour débloquer les fonds, pour avoir ce matériel rapidement, il faut, on a un lien, voilà, un mail, on leur envoie, voilà, ce dossier est urgent, c'est important. La maladie, souvent, chez nos patients, va vite. On ne peut pas se permettre d'attendre 6 mois.
Oui.
Mais ça devrait être... plus fluide.
Oui, 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 je comprends ce que vous voulez dire. Là encore, c'est quand même une question de moyens. Et justement, j'allais vous dire, la vie avec la SLA, on voit qu'elle modifie la manière de voir les gestes de la vie quotidienne. Le quotidien est complètement changé. Se déplacer, communiquer, s'alimenter, tout est modifié. Est-ce que vous intervenez pour aider à adapter, par exemple, des locaux ou... des manières de se déplacer ou pour améliorer les choses du quotidien? Est-ce que vous intervenez, par exemple, je sais pas, au début de la maladie, auprès du lieu de travail ou ensuite auprès de la famille? Je sais pas s'il peut y avoir une poursuite professionnelle pendant les premiers mois, je sais pas, de la maladie. Oui, ça peut, c'est possible, ça.
Oui, alors souvent on passe par des relais des réseaux, des dispositifs d'appui à la coordination qui peuvent aider localement à trouver les ressources pour aider à l'aménagement du domicile, trouver les moyens que la personne puisse travailler le plus longtemps possible aussi. Et ça se fait vraiment en partenariat avec les recommandations peut-être de notre ergothérapeute quand elle aura vu le patient. Ou elle peut aussi, on a le lien avec les prestataires de matériel médical qui viennent faire les essais à la maison.
Ah oui, d'accord.
Ce genre de choses. Des personnes aussi qui peuvent venir faire les travaux, qui viennent faire les devis. On a le lien avec toutes ces personnes-là, on lance les démarches et souvent, il y a du relais en tout cas, de proximité.
Donc vous facilitez en fait... C'est
de trouver les bonnes personnes, ouais, effectivement. Nous, notre ergothérapeute peut faire des visites à domicile, mais dans un rayon assez restreint autour de Toulouse. Et après, c'est de trouver les personnes de proximité qui peuvent le faire, sinon.
Pour revenir sur le milieu dans lequel le patient évolue, parce que c'est une maladie qui va avoir un impact très fort sur les proches, qui vont devoir finalement devenir des proches aidants, hein, et ils vont être obligés d'apprendre des choses, d'aider leurs proches malades, etc. Donc l'impact de la maladie sur la vie familiale, bon, la vie professionnelle également, mais la vie familiale peut être très fort en rendant certaines activités impossibles. Hein, on en a parlé tout à l'heure, cette maladie peut... au moins faire évoluer les relations, parfois les rompre, j'imagine. Est-ce que vous recevez aussi les proches et les familles dans le cadre de l'accompagnement? Parce que justement, l'accroissement de la dépendance aux autres, elle doit sans doute être très difficile à porter pour les proches au quotidien, puisque ce changement de statut, passer d'épouse à aidante, par exemple, au quotidien... Ça doit être... oui, ça change son rôle, mais ça... Vous parliez tout à l'heure de repenser son couple, c'est sûr que c'est...
C'est sûr que ça vient impacter aussi la vie intime et la vie du foyer. En fait, régulièrement, on a des aidants qui sont épuisés par la situation et on essaye, alors avec différentes ouvertures. Quand il y a des hospitalisations du coup de jour, on reçoit la personne, elle peut venir avec un accompagnant qu'elle décide, son aidant principal si elle le souhaite. La personne du coup peut être présente déjà pour avoir des réponses à des questions auprès des différents professionnels qui sont présents, donc toute l'équipe. Moi, à ce moment-là, je peux aussi proposer des échanges pour essayer de voir envisageable de venir aménager aussi, voir des couples de dépendance, en fait, où effectivement, l'un et l'autre, régulièrement, le mari et l'épouse, quand même, hein, dans les personnes qu'on accueille, et avec du coup des profils plus ou moins vieillissants, donc avec des aidants qui peuvent aussi être porteurs eux-mêmes d'autres pathologies, donc on se rend compte de la fragilité aussi de ce que peut être l'aidant. Différentes propositions qu'on peut avoir vont dépendre un peu des besoins de l'aidant. Effectivement, l'idée est de faire en sorte de le protéger au maximum, mais avec une certaine limite. Donc il va y avoir des dispositifs qui vont être de venir soutenir la vie au domicile avec des personnes qui peuvent être des auxiliaires de vie, avec des aides à domicile qui vont déjà permettre de décharger des tâches ménagères, qui vont permettre de dégager les petites missions du quotidien qui doivent être menées pour avoir un environnement qui garde une certaine hygiène. Il va y avoir les établissements qui proposent des répits dans lesquels le patient, du coup, peut être hospitalisé pendant plusieurs semaines et dont l'hospitalisation dépendra aussi de sa volonté à vouloir être présent. C'est pas toujours une volonté de la part du patient que d'aller dans cet établissement, mais en tout cas, ça permet d'avoir une ouverture pour que l'aidant principal puisse se reposer. Ouais. Et il existe, par rapport au soutien plus moral, alors l'ARSLA met en place des groupes de parole qui peuvent être accessibles.
Aussi beaucoup d'associations... à l'initiative d'aidants ou de patients qui peuvent proposer ce genre de groupe de parole, il me semble. Enfin,
je réfléchissais si c'était en présentiel ou en consultation, mais je crois...
Là, il y a les deux, mais ça dépend des régions.
Très bien. Il y a l'association dédiée au pôle des maladies neurodégénératives, qui est un dispositif qui s'appelle Allo, j'aide un proche, qui met en ligne un service du coup de 18 à 22 heures d'écoute téléphonique auprès de... Alors, J'avais le chiffre de 14 psychologues présents, donc il y a quand même une équipe dédiée. Et donc l'aidant peut contacter dans ces horaires-là, tous les soirs, dans ces horaires, un psychologue pour venir échanger sur son vécu, de son quotidien et venir essayer de repenser un peu son environnement, tout simplement.
Donc il y a vraiment un soutien de différentes manières, en fait, qui peut se faire entre le répit, le psychologue par téléphone. Enfin, ça fait quand même qu'il y a des moyens pour les proches aidants de pas trop se sentir seuls, même si souvent ils doivent se sentir très seuls avec certaines choses.
Oui. J'allais dire que là où on pouvait avoir des difficultés, en fait, c'est que dans la SLA, il peut y avoir des formes où il y a une apparition d'une démence frontotemporale.
Ah, d'accord.
Et du coup, tout à l'heure, je disais que la personne doit être volontaire pour être dans un établissement de répit. Effectivement, c'est un peu délicat de venir questionner la volonté sur une personne qui est dans un état de démence.
Et oui, bien sûr.
Et du coup, des fois, on se retrouve un peu démunis à ce moment-là, alors que les aidants qui accompagnent ce type de profil de nos patients portent un épuisement physique et moral important.
Mmh. Et oui.
Donc voilà, on peut avoir aussi des limites dans lesquelles on va quand même essayer de tendre à avoir toutes les formes de soutien qui peuvent exister autour de ces aidants, avec à des moments aussi peut-être un vécu d'impuissance.
Pour terminer, j'aimerais que nous abordions des questions qui sont posées par les difficultés pour communiquer, qui sont particulières dans la SLA. Alors, la SLA n'est pas la seule maladie qui conduit à perdre l'usage de la parole. En 1997, grâce à ce livre très marquant à l'époque, Le scaphandre et le papillon, le public a pu découvrir le récit à la première personne, écrit par Jean-Dominique Bobby, qui décrit son vécu du syndrome d'enfermement suite à un AVC. Alors, on a découvert qu'il avait pu écrire ce livre par le seul mouvement de sa paupière gauche. On lui montrait l'alphabet jusqu'à ce qu'il cligne de l'œil de manière à épeler le mot qu'il voulait écrire. Les soignants ont ensuite développé des tableaux transparents de lettres qui étaient regroupées pour faciliter la communication. Et puis, on a développé la téléthèse. Je crois que vous y avez fait référence tout à l'heure. Mais on a beaucoup, dans le grand public, la notion de ce qu'est la téléthèse grâce à Stephen Hawking qui l'utilisait pour s'exprimer avec une voix de synthèse à partir du mouvement de sa joue. Et dans d'autres cas, la téléthèse peut être utilisée avec les mouvements oculaires. Et désormais, il y a un projet qui est porté par l'association Les Invincibles. Ce projet, c'est de développer la possibilité d'enregistrer sa propre voix dès le moment du diagnostic de la maladie, afin que la téléthèse puisse la reproduire dans l'avenir. Et est-ce que ce type de nouveauté vous paraît important? Est-ce que ça pourrait toucher les personnes que vous accompagnez? Bien sûr, on entend qu'il y a cette question de à quel moment je vais être capable d'accepter, de comprendre qu'enregistrer ma voix, c'est important. Je suppose que ça, c'est encore une fois la question individuelle du ressenti.
Et en fait, c'est une question qu'on n'a pas à chaque fois. Mais souvent chez des personnes qui développent d'emblée, enfin qui commencent la maladie par une atteinte bulbaire, c'est-à-dire de la parole ou de la déglutition, mais donc la parole avec une dysarthrie importante au début, eux vont penser d'emblée à est-ce que je pourrais enregistrer ma voix pour que si au moment où je la perds, je puisse la voir. Sauf que c'est plus possible du moment qu'elle est déjà altérée.
Et oui, voilà, c'est ça.
Donc ce qu'il faudrait, c'est proposer aux patients, par exemple, qui rentrent dans la maladie d'une façon avec une atteinte motrice, eux, on pourrait leur proposer. Mmh. Mais ce qui laisse à supposer, c'est de qu'ils se projettent dans ce moment-là où ils perdront leur voix.
Et oui, c'est ça.
C'est très délicat. Mmh. C'est très délicat. Après, pourquoi pas par des technologies, quand la technologie aura évolué, il y aura peut-être pas besoin à ce point-là que la voix soit intacte. Pour l'instant, c'est le cas. Et les seules personnes, je crois, mais c'est en France, qui ont pu le faire, c'est Pone, parce qu'il y a énormément d'enregistrements de sa voix, comme il était dans le milieu médical, musicale. Et une autre personne qui a eu recours à un humoriste,
un imitateur,
pour reproduire sa voix. Voilà, c'est vraiment très très rare. Après, c'est un beau projet, mais en gros, nous, ce qui nous donne à réfléchir, c'est peut-être de travailler sur des choses, des leviers plus importants en termes de communication. Je ne veux pas dire plus important, mais qui déjà pour les patients serait dans le pratique plus important, quelque chose de plus fluide, parce que quelqu'un qui va chercher ses lettres avec le regard pour répondre à quelqu'un, on perd un peu cet automatisme de réponse du tac au tac.
Oui.
La personne qui est en face doit attendre. Voilà, de retranscrire aussi les émotions. Ce genre de choses,
Et oui, puisque finalement, avec la maladie, le visage devient à peu près statique, donc on n'exprime plus les émotions, c'est vrai.
Donc c'est important, mais toujours délicat, à proposer.
En fait, il existe des outils qu'on utilise.
Aussi, c'est ça.
Pour permettre à la personne de continuer à communiquer malgré une tétraplégie complète, c'est une commande oculaire qui est accordée avec une synthèse vocale, avec un équipement type ordinateur. Et donc la personne qui a une tétraplégie complète a cette proposition. Alors c'est un matériel qui est coûteux, onéreux, mais qui peut avoir des financements et dont on voit qu'effectivement, de nombreuses personnes ont une réponse aussi à leurs besoins de partage grâce à cet outil-là.
Mm-hmm.
Mais la faille est effectivement que de communiquer avec les yeux prend du temps, que c'est beaucoup moins fluide qu'avec la parole. Et qu'à des moments, en fait, dans les enjeux relationnels, forcément, ça vient créer des situations où ils se sentent moins écoutés, où ils se sentent mis à l'écart, faute de temps de la personne présente pour... Donc on ne peut pas dire que ce sont des projets inintéressants parce que plus ils vont être développés, peut-être que plus la technologie va s'améliorer et plus on va tendre vers quelque chose qui va permettre à la personne d'avoir une voix enregistrée, de continuer à la garder parce que je crois que ça a une importance pour la personne de conserver une part de son identité en fait derrière. Mais effectivement, nous, dans le pratique, on a en première intention ce regard-là, d'autant que les limites peuvent arriver si la personne, c'est plus rare, mais si la personne a une immobilité de la paupière ou du regard, du coup, elle ne peut même pas avoir accès du coup, à ce type de dispositif. Donc déjà, comment permettre de communiquer différemment, ça, je crois que ça fait vraiment partie des enjeux importants, car c'est quelque chose qui revient régulièrement dans ces fameuses directives anticipées, comme quoi l'arrêt de la communication peut aussi être un facteur déclenchant l'envie d'arrêter de vivre.
Et oui, justement, j'allais vous poser la question. La possibilité de continuer à s'exprimer, à échanger avec les autres, ça, j'imagine, un enjeu très très fort. Et toutes les personnes malades ne peuvent pas s'approprier ces outils dont vous parlez de la même manière. C'est-à-dire que... est-ce que la personne était auparavant familière de l'usage des ordinateurs, par exemple ? Est-ce que, il y a après les questions d'évolution de la maladie dont vous parliez, mais il y a aussi la relation avec la technologie qui est sans doute différente d'une personne à l'autre. Et comment vous procédez ? Qu'est-ce que vous travaillez sur cette question de l'expression avec les personnes que vous accompagnez, c'est-à-dire pour les amener à s'approprier ces outils ou pour trouver d'autres manières d'être présent avec leurs proches.
En fait, de manière générale, l'alternative à la communication commence très tôt. Dès qu'on perd la voix, mais qu'on peut encore avoir oui. eu l'usage de ses mains, on peut utiliser un logiciel qui s'appelle Assistant Parole sur une tablette ou sur un téléphone. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Nous, en service ou en hospitalisation de jour, quand ils viennent faire leur bilan, on peut leur expliquer, leur montrer, l'aider à le télécharger. Et c'est assez simple de le prendre, vraiment de l'utiliser. Quand ça devient plus complexe et qu'on est sur de la commande oculaire, c'est des choses qui s'anticipent, qui s'organisent avec des prestataires de location de ce matériel ou de vente de ce matériel, qui peuvent venir au domicile, venir faire des séances, bien expliquer, ça prend du temps, et qui sont là aussi pour revenir, réexpliquer s'il y a un problème avec le matériel. Donc ça, c'est des choses oui, qui, quand même, qui sont bien mises en place et c'est assez important.
Non, j'allais dire que ça va dépendre aussi de la manière dont la pathologie est présente chez la personne. Est-ce qu'elle a l'utilisation possible de ses mains? Si oui, bah, elle va peut-être choisir de manière très spontanée l'écriture.
Oui.
Dans des choses très simples, hein, comme des ardoises effaçables, comme des cahiers, comme... et effectivement, l'idée est de pouvoir proposer différents types d'outils en fonction du possible de la personne. On a les Kikos, qui sont des lunettes munies d'un laser, effectivement, qui permettent d'orienter sur un tableau de lettres grâce au mouvement de la tête. Et du coup, si la perte de parole est présente avec... avec une paralysie du corps, du coup, ça permet quand même de pouvoir échanger de cette manière. On a donc cette commande oculaire avec la synthèse vocale qui mérite d'avoir un vrai accompagnement sur la manière dont le matériel est positionné, en fait, parce qu'il y a vraiment une adaptation posturale pour que la personne, du coup, ait la tête fixée d'une certaine manière qui soit cohérente avec l'écran, pour du coup faire le minimum de mouvement en ayant le maximum de résultats, entre guillemets. Effectivement, c'est des professionnels hein, qui sont derrière présents pour ce type de matériel et qui permettent un accompagnement sur la longueur, du coup.
Ben, je vous remercie beaucoup, Sophie Dufaux et Harmonie Lefebvre.
Merci à vous.
Merci à vous pour l'invitation.
C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse-Jean Jaurès.